En général, nos exportations agroalimentaires se portent bien, même si quelques tensions sur la scène internationale rendent les choses parfois un peu plus ardues. Et aussi, le potentiel d'exportation est encore loin d'être pleinement exploité. J'en ai discuté avec André Coutu, président-directeur général du groupe Export. Mais tout d'abord, nous avons parlé des prix et de la soirée des Alizés.
Pour groupe Export, à l'intérieur du cadre de Ciel, il s'agit d'un événement très important. C'est un événement de réseautage qui habituellement groupe 500 personnes avec une centaine d'acheteurs et ça permet aux gens du réseau d'apprécier ce qui s'est passé dans leur industrie au cours des 12 derniers mois. Les prix Alizés, en fait, là, ça remplace le prix entreprise exportatrice canadienne de l'année qui existait depuis une douzaine d'années. On a changé le nom pour Alizé. Alizé étant du mot anglais « trade wins ». Autrefois, quand on faisait du commerce à l'international, on attendait que les vents soient favorables pour se rendre dans d'autres pays. Les bateaux mettaient le cap vers le pays convoité quand il y avait des grands vents. Alors, c'est de là que vient le mot Alizé, des « trade wins ». Donc, c'est ce qui a été adopté pour la soirée. C'est toujours Financement Agricole Canada qui est le partenaire présentateur. Et l'objectif des Alizés, c'est évidemment de féliciter les entreprises qui se sont démarquées au cours de la dernière année à travers des stratégies d'exportation novatrices et puis qui contribuent à faire rayonner l'industrie alimentaire canadienne et québécoise sur les marchés internationaux. Des finalistes, il y en a trois. Le premier étant de Saint-Hyacinthe, la compagnie Jeffo Nutrition Incorporée. On a également de Granby LB Maple Tree dans le sirop d'érable. Et on a de Roblin au Manitoba, une société qui s'appelle Wendell Estate Honey. Alors, ce sont les trois finalistes qui se retrouveront sur le plancher de la soirée réseautage, première soirée du CIAL, qui est le 30 avril prochain à Toronto, au Inner Care Center. Et il n'est pas impossible aussi qu'on ait un coup de cœur, qu'il y ait une petite remise là, de fait à une société peut-être un peu moins importante, mais qui ont fait des efforts tout à fait valables et intéressants sur les marchés internationaux. Alors, il n'est pas impossible qu'on fasse un petit clin d'œil aussi à une ou deux de ces sociétés-là. L'Alizée, en fait, là, ça va devenir un prix annuel qui va récompenser les entreprises là, qui ont fait une bonne job sur le marché de l'exportation, là, qui ont connu une croissance exponentielle, qui ont fait des activités structurantes là, de consolidation, qui se sont démarquées. Le cadre est parfait pour faire ça. Et ça permet à cette entreprise-là de bénéficier, évidemment, d'une publicité fort appréciée là, de la part des participants.
Et vous êtes allé chercher, je vous dirais que ça a été facile quand même, vous êtes allé chercher M. Martin Plante comme ambassadeur de cette grande soirée des Alizés.
Tout à fait, il s'agit de Martin Plante, de Citadel. Citadel, évidemment, dont la réputation d'excellence à l'exportation n'est plus à faire. Vous savez, on est dans un monde où ce genre d'événement-là, d'abord, ça demande du temps, ça demande de l'énergie de la part des compagnies. Il y a plusieurs qui ont manifesté de l'intérêt au départ, mais on pense que le manque de temps les empêchait de compléter le dossier pour le déposer. Et pour mousser cette activité-là, bien évidemment, outre le réseau de groupe Export et celui de Ciel, on a mis à contribution Financement Agricole Canada qui couvre évidemment tout le Canada avec leurs succursales partout. Et on a demandé à Martin Blanc, qui nous apparaissait un ambassadeur par excellence, ayant déjà été récipiendaire à deux reprises, de nous aider là, à passer le message qu'il a accepté avec grand plaisir.
Bien sûr, il y a les prix Alizés qui sont une émulation, une stimulation du milieu des entrepreneurs auprès des entrepreneurs, mais pour ce qui est du travail constant, courant du groupe Export, comment ça va?
Bien, ça va très bien. Les exportations au Québec, on le voit là, d'année en année, c'est devenu un incontournable. Si on regarde là, ce que les déclarations du premier ministre Legault, il y a quelques mois, quand il est revenu d'Europe, M. Legault est très, très orienté. Il est très exportation, si je peux employer le terme. Et le support que l'on a du ministre Lamontagne, son écoute à l'égard de ce dossier-là, est très bonne. On a déjà eu plusieurs rencontres avec ses équipes. Et dans le cadre de la politique bioalimentaire du Québec, on aura eu, comme d'autres intervenants majeurs, l'occasion d'exprimer nos attentes par rapport au travail des équipes gouvernementales en termes de soutien. Il faut se rappeler, évidemment, que le secteur des aliments et boissons au Québec, même si c'est moins glamour que Bombardier ou que les télécommunications, il reste que c'est responsable là, pour 17-18 % des emplois au Québec. C'est donc un secteur de notre économie là, qui est absolument incontournable. Quant aux exportations elles-mêmes, un survol rapide, là, ces chiffres-là d'ailleurs viennent de Statistique Canada principalement là, et de compilations qu'on a faites au groupe Export. Nos exportations au 31 décembre 2018 atteignaient 8,61 milliards de dollars. Bien sûr, le principal marché reste et demeure les États-Unis avec 68 % de ces sommes-là. Alors, c'est de toute évidence, là, à l'exportation, un des partenaires extrêmement importants des manufacturiers québécois. On remarque cependant, pour la première fois depuis 10 ans, une baisse des exportations sur le marché américain. En 2017, nous avions exporté pour 6 milliards 92 millions. Le 31 décembre 2018, on est à 5 milliards 857 millions. Donc, une baisse de 3,9. C'est pas drastique dans le contexte. Ça reste encore un marché fort intéressant. Mais on s'y attendait un petit peu, là, en fonction de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, à ce qu'il y ait peut-être un effet sur nos exportations. Ça a été le cas et bien sûr, il y a eu le taux de change qui a joué. Il y a eu aussi là, toutes les discussions alentour de l'ANENA, le protectionnisme avoué. Là, en fait, ce qu'on pourrait appeler l'effet Trump a contribué aussi avec la fluctuation de cours de denrées et d'intrants là, à provoquer cette baisse-là. Est-ce que ça va durer? Mais on verra en 2019 quels seront les marchés. Mais là, pour l'instant, là, on a une petite baisse de ce côté-là.
Et si le contexte se rétablissait, par exemple, on parle de grands litiges, là, acier, aluminium avec les États-Unis, tout l'impact international de confrontation entre la Chine, les États-Unis, la signature d'un nouvel ALENA. Si tout ça se réglait, là, le climat se rétablirait, le climat favorable aux exportations se rétablirait?
Bien, définitivement. On est dans une époque là, d'internationalisation des marchés. On ne peut pas aspirer au libre-échange en pensant qu'on n'aura pas à faire du give and take. C'est une question de négociation. Je pense que le Canada a fait de très bons efforts au cours des dernières années. Mme Freeland a fait un excellent travail. On a eu des représentations du Québec de façon permanente là, dans ces enjeux-là. Il y en a d'autres à venir avec la Chine, avec le PTPGP, avec le Brexit en Angleterre. Il faut donc continuer là, d'assumer une présence et défendre les intérêts du Canada puis des manufacturiers québécois. Mais évidemment, souvent, c'est pas nous autres qui sommes au volant. On subit les politiques étrangères et on essaie au mieux de tirer notre épingle du jeu. C'est le cas avec l'Europe, où on a un déficit là, tout à fait gargantuesque. C'est indécent, tout à fait pratique, ce que le Québec réussit à vendre en Europe versus ce qu'eux nous vendent. On est à un déficit là, important d'à peu près 2 milliards de dollars par année. Là, il y a un travail sérieux à faire. Il y a une job de bras, comme on dit. Il va falloir trouver des stratégies novatrices pour arriver à récupérer des points de marché sur le marché européen. Je pense qu'une des avenues serait sûrement d'augmenter notre présence par voie de représentation commerciale, non gouvernementale. C'est des éléments là, qu'on est en train d'étudier de façon approfondie. Il n'y a personne de mieux placé pour parler de l'industrie que des représentants de l'industrie eux-mêmes. Et il y a, à mon avis aussi, là, personne n'est mieux placé que d'avoir un représentant local sur le marché convoité. Dis plus simplement, si tu veux faire des affaires au Japon, ben engage un Japonais. Ça va faciliter le travail pas mal, plutôt que d'envoyer ton vice-président des ventes 2-3 fois par mois là, à l'autre bout du monde avec les dépenses qui y sont rattachées. Alors, je pense que cette ligne-là de pensée devrait nous animer, devrait nous inciter à regarder les opportunités. Et deuxièmement, d'améliorer la formule, un peu comme on le fait aux États-Unis avec ECRM, nos rencontres B2B avec notre partenaire américain. Il faut, vers l'Europe, aller aussi vers le même genre d'approche, c'est-à-dire se pouvoir se parler dans le blanc des yeux, aller rencontrer les acheteurs, les distributeurs, les réseaux de logistique, les transporteurs, et voir comment on peut pénétrer ces marchés-là. Il ne s'agit pas de partir comme une poule pas de tête, là, de courir à travers les 27 pays européens, mais plutôt d'identifier les opportunités sur l'Europe où les marchés nous sont plus favorables en fonction des produits et de la compétition internationale qui s'y trouvent. Ça fait partie de nos réflexions, ça fait partie des discussions au conseil d'administration. Ce sont des points qu'on partage avec nos partenaires d'Agriculture Canada et du MAPAC. Et je pense qu'ensemble, le Québec pourrait très bien tirer son épingle du jeu en adoptant des mesures flexibles. Évidemment, ça va prendre des investissements. Ça pourrait prendre la forme, ce que je pourrais appeler un fonds de contrepartie, là, un leverage fund, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, pour un dollar mis de l'avant par les gouvernements en soutien aux entreprises, celles-ci pourraient également investir le même dollar et ainsi créer un fonds, un réservoir, un mode de financement novateur dans lequel on pourrait associer 10, 12, 15 de nos leaders dans l'exportation et avec ces gens-là, faire un démarchage intensif sur place de façon à regagner nos points perdus au fil des années. Au risque de me répéter, on a une relation avec l'Europe qui est un peu coloniale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vend du blé, on vend de l'orge, on vend du soya. On vend peut-être quelques autres produits, mais c'est marginal. On vend du sirop d'érable, on vend un peu de poisson, des fruits de mer. Mais de l'autre côté, ben eux nous vendent pour 2 milliards par année. Alors, comment faire là pour renverser la vapeur? Le défi est énorme. Mais au moins regagner quelques points de marché et augmenter nos parts de marché dans certains pays où on pense là, que les opportunités vont se présenter. Alors, là, j'ai fait un grand détour, là, mais ça fait partie de nos enjeux. Quant au reste, le groupe Export, évidemment, fait toujours une trentaine de prestations internationales par année. On est sur plusieurs continents. On accompagne toujours les entreprises. Nos affaires vont bien. Le groupe Export est en santé. On a une équipe dynamique de jeunes conseillers à l'exportation. Et on est en relation, bien sûr, avec des organisations internationales par lesquelles on pense pouvoir améliorer la situation. Il ne faut pas négliger là-dedans, évidemment, le reste du Canada. Les ventes hors Québec dans le reste du Canada sont très importantes. Là, selon Statistique Canada, au 31 décembre, là, ça a atteint 12 milliards 600 millions en augmentation de 3,6% par rapport à l'année passée. Donc, quand les temps sont difficiles, le marché canadien offre évidemment des opportunités intéressantes pour les manufacturiers. À preuve, ce sont les ventes que l'on y fait. Je pense que si on en arrivait à signer, entre guillemets, là, un aléna canadien, c'est-à-dire l'abolition des barrières tarifaires entre les provinces, ça nous permettra encore là, de faire des échanges commerciaux beaucoup plus importants que ce qu'on a actuellement.
Donc, effectivement, beaucoup de travail pour le groupe Export, qui, on le voit bien, a sa raison d'être. Mais si on revient à la soirée des Alizés, vous la voulez, cette soirée-là, comme une fête tout particulièrement là, pour les entreprises exportatrices.
Tout à fait. C'est d'abord, je pense, Lionel, un lieu d'échange. C'est un lieu de rencontre. On a abandonné depuis longtemps, longtemps, la formule gala avec une table et 8, 9, 10 personnes assises alentour de la table. On veut que les gens échangent entre eux. Le plancher a été conçu comme ça, de façon à ce que les gens se promènent, prennent contact, échangent leur carte d'affaires, parlent de business, se donnent des trucs, se présentent les uns les autres. C'est une soirée réseautage, c'est une soirée pour les transformateurs. Et ça souligne aussi en même temps, il y a l'aspect festif, bien sûr, et ça souligne en même temps le travail qui s'est fait dans la dernière année. Puis ça nous situe les uns les autres par rapport à ce qui se passe. Ça va être encore une belle fête de l'agroalimentaire. Le CIAL est la plus grande plateforme canadienne internationale qui existe. Le CIAL n'a pas fini de grossir. Ça a été, il y a 20 ans, un excellent move que d'amener ça au Canada. Le groupe Export, évidemment, nous étions les premiers à négocier ça avec les Français, mais ça fait 20 ans que ça marche. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé que ça aurait pris cette ampleur-là. Alors, on en est d'autant plus fiers. La soirée vient souligner ça aussi, là, cette alliance franco-québécoise qui dure depuis 20 ans au bénéfice des transformateurs du Canada.
Eh bien, là-dessus, M. Coutu, merci beaucoup et bon CIAL 2019 à Toronto et surtout pour vous, bonne soirée des Alizés. Merci. Ici Lionel Levac. Bonne chance aux entreprises finalistes au prix des Alizés et, encore une fois, bon CIAL 2019 à Toronto. Au revoir.